On est au Cameroun et il fait chaud. Euphrasie est une jeune enfant qui joue au milieu des plantations de cacaoyers, celles de son grand-père, de sa famille. Elle manipule, touche, respire, sent ses fèves de cacao qui, à terme, sont revendues à de riches industries européennes. Euphrasie est très intelligente. C'est la petite perle de la famille, tout le monde croit en elle, à tel point qu'ils se cotisent tous pour l'envoyer en Belgique et lui payer des études supérieures. 5 ans plus tard, elle deviendra traductrice à la Commission européenne, mais elle porte ses origines et n'oublie pas les terres de son grand-père. D'ailleurs, c'est en Belgique qu'elle découvre ce qui est fait des fèves de cacao. Un sacré produit de luxe chez nous. Parce qu'au Cameroun, on ne mange pas de chocolat. Ils connaissent la matière première, mais pas le produit fini. C'est une invention occidentale. Euphrasie rencontre Richard, son futur mari. Ils ont un premier fils, Hugo. Ils vivent une vie plutôt confortable, beau job, belle maison et belle voiture. Globalement, des situations de vie qui font plaisir. Pourtant, alors qu'Euphrasie est enceinte de leur deuxième fils, Siméo, un triste événement survient. Le décès de son grand-père. Celui qui possédait et faisait vivre les plantations de cacao. Le patrimoine familial allait tomber à l'abandon et c'est pleine d'émotion et d'amour pour sa terre natale qu'Euphrasie décide de tout laisser tomber et de devenir chocolatière pour permettre à ses frères et sœurs au Cameroun de vivre décemment sans dépendre de grandes industries capitalistes. Elle crée ainsi Sigoji. Il était une fois Euphrasie Mbamba.
Alors, je dirais que le premier prix que nous avons reçu, c'était la vitrine de l'artisan. Donc, elle a été élue meilleur artisan de Belgique. Ça a été un grand étonnement quand on a reçu ce prix. Parce que c'était toutes catégories confondues. Donc, au niveau artisan, bien entendu. Mais on était face à vraiment du lourd. Et on a vraiment été étonnés. Ça a été un réel levier. Ça a été aussi... Quand on a reçu ce prix, je pense qu'on n'avait pas encore su se prendre une seule fois un salaire. On vivait sur nos réserves. Et je dirais qu'on s'est dit à ce moment-là, allez, on le fait quand même peut-être pas pour rien. Il y a peut-être une issue, parce que pour être tout à fait franc avec vous, les 3 premières années de l'entreprise, l'issue, c'était compliqué de la donner. Hein. On était très nerveux, on travaillait comme personne pour ne rien gagner, vraiment pour ne rien gagner, limite pour perdre. Donc une fois qu'on a reçu ce prix-là, ça a été une forme de soulagement et ça nous a certainement libérés pour continuer à avancer. Très rapidement, on a été élu meilleur chocolatier par le Guide Gaudet Millau. C'est un prix qui vaut ce qu'il vaut, mais l'opinion publique, dès qu'il y a ça, du jour au lendemain, c'est la file au magasin. Et donc ça a donné un coup de boost énorme au business. Pour recadrer la chose, ces prix ont été remis chez le grand manufacturier Calbo. Et nous, on est allergiques à ce grand manufacturier. Ils font tout ce que nous, on ne veut pas qu'il se passe dans le monde du cacao. On est diamétralement opposés. Donc, nous, quand la remise de prix se fait chez Calbo, on ne répond même pas à l'invitation. Donc, on n'y va pas. Et c'est 2 jours avant, les organisateurs du Guide Gaudet Millau qui nous téléphonent et qui nous disent « Mais il faut venir, hein !» Ils disent « Non, écoutez, c'est chez Calbo, tous les sponsors, c'est tous des produits industriels, on ne travaille avec rien, et c'est à l'antipode de nos valeurs, donc on n'y va pas, voilà, c'est tout. » Et c'est là, ils vont en Damèche, ils disent « Non, venez, c'est où ?» Donc là, on se dit « Ouah, purée, c'est nous, qu'est-ce que c'est de ce truc ?» Donc on y va, 2 jours, on est complètement étonnés. Et là, c'est un tourbillon qui commence, parce que RTL arrive, RTB arrive, tous les médias sont là.
Le célèbre guide gastronomique Gaudet Millau, lui, vient de décerner le titre de chocolatier de l'année 2019 en Wallonie à une chocolatière de Siné, une femme d'origine camerounaise qui connaît donc très bien le cacao et qui a fait du chocolat de luxe sa spécialité. Aurélien Thon et Maxime Simon l'ont rencontré.
Tout a commencé il y a 4 ans pour la chocolaterie, mais le lien avec
Dès
le cacao...
Dès qu'on a reçu le prix, on n'est pas préparé à ça. On n'a pas de stock, on n'a pas l'atelier pour faire face à cette demande-là. Et on a travaillé pendant 3 mois, 24 heures sur 24. On a des amis qui sont venus nous aider la nuit. C'était une période vraiment très très compliquée. C'est super chouette, mais il faut être préparé pour recevoir un prix pareil. Parce qu'on a aussi déçu de la clientèle. Nous, cette année-là, on a dû fermer le 23, le 24 et le 25 décembre parce qu'on n'avait plus de marchandises, c'était plus possible. Donc tous les gens étaient à la porte en train d'essayer d'ouvrir et nous, on était en train de produire derrière pour tenter de retrouver un petit stock pour l'entre-deux fêtes. Donc oui, on a reçu les prix dans l'étonnement. Bah ça apporte une grande satisfaction, faut être clair. Et ensuite, ça a été la douleur. La douleur pendant certainement un an. Le temps d'intégrer un nouvel atelier, d'acheter des machines plus importantes. Mais pour ça, il faut convaincre les banques. On n'avait pas des bilans exceptionnels, étant donné qu'on n'a jamais gagné de l'argent avant ça. Donc ça a été vraiment un parcours douloureux après. Et je dirais... 2 ans de questionnement dans tous les sens, d'investissement, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, de remise en question par rapport à la gamme de produits, parce que quand on travaille tout seul, petit indépendant, on peut se permettre de faire plein de trucs, mais quand on commence à avoir du volume, il faut rationaliser un petit peu, sinon c'est plus possible, et donc il faut engager, il faut trouver les bonnes personnes. Dans la nervosité et le rush, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et je vous avoue que ça a été certainement nos deux pires années. Les après-prix, ça a été nos deux pires années. Dans un premier temps, on est rêveur. Alors on engage et on essaie de transmettre et on pense qu'on va y arriver comme ça. Et donc on se plante. Parce que les gens qu'on engage ne comprennent pas nécessairement tout directement. Il y a besoin d'un cadre, il y a besoin de patience, il y a besoin de sérénité pour former les gens. Et là, on n'était pas du tout dans une période sereine. Et donc ces 2 ans-là, moi, j'ai vraiment travaillé dans l'ombre. Je me suis retiré de tout et j'ai imaginé un atelier de production pour faciliter les choses, physiquement, mentalement. Et donc là, j'ai une formation d'électromécanicien, et donc j'ai fait appel à tous mes souvenirs et j'ai repensé finalement le métier de chocolatier, parce que je voyais mon épouse se dégrader de jour en jour, tellement la tâche physique était importante, la tâche mentale était importante. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'était les deux pires années. Je voulais pas la retrouver entre quatre planches, parce qu'elle a toujours voulu, et ça c'est vraiment important pour elle, c'est de rester à l'atelier, c'est de ne pas devenir une femme de bureau et une femme de communication, et ainsi de suite, c'est de rester à l'atelier. Elle, ce qui lui plaît, c'est d'arriver seule dans l'atelier le matin, qu'il n'y ait personne, et d'avoir toutes ces odeurs de cacao. Ça lui rappelle sa vie sur les plantations, et ça, elle veut jamais mettre ça de côté, quoi. C'est vraiment super important pour elle de continuer à élaborer les recettes, de continuer à travailler à l'atelier, et d'être finalement, sa fierté, c'est de former les gens à l'atelier, de leur transmettre cette passion. C'est un métier de passion, réellement c'est un métier de passion.
Alors, Frazine Bamba, chocolatier, et aussi dirigeante de la société Sikoji. Moi je dis toujours que je suis mompreneuse, c'est-à-dire que je suis d'abord maman, et je suis entrepreneur plutôt, et il faut que je puisse gérer les deux. Donc d'abord la journée commence par mes enfants, donc je vais d'abord les déposer à l'école, une fois qu'ils sont à l'école, ou je les laisse aller à l'école, une fois qu'ils sont à l'école, j'arrive au bureau. La première chose que je fais, c'est d'ouvrir mon ordinateur, de traiter mes mails, parce que ça c'est très urgent. Ensuite je descends à l'atelier, vois mon équipe, et voir comment la journée va se dérouler. Une fois qu'on a vu tout ça ensemble, je fais la partie qui m'est confiée, parce que finalement, ce sont eux qui gèrent plus l'atelier que moi. Donc, je fais la partie qui m'est confiée, surtout la partie du traitement de la matière première, c'est ce que je fais le plus souvent. Et ensuite, je retourne encore au bureau, je regère mes mails, et de nouveau, je suis toujours entre les deux, je dirais, je suis à la fois femme de ménage, je suis à la fois responsable de recettes, je suis à la fois maman et je suis à la fois chef d'entreprise. On n'a pas spécialement le choix quand c'est une petite entreprise, on doit être à tous les postes. Je pense que je m'inspire de tout, je m'inspire de la vie, je m'inspire des odeurs, je m'inspire des émissions que je vois. Parfois, on crée juste une recette parce qu'on a regardé une émission à la télé, par exemple Top Chef, et alors que c'est plus salé. parfois au sucré, ben, on essaie de reproduire la même chose. Par exemple, une des pralines, la toute dernière qu'on a sortie, c'était passion poire et piment d'Espelette. C'est juste parce qu'en regardant une émission Top Chef, on s'est dit, ah tiens, si ça colle là, ça pourrait peut-être coller avec une praline. Donc, on s'inspire en fait de tout, de nos clients qui viennent aussi parfois avec des idées en disant, ah bah tiens, moi je fais ça dans mon potager, peut-être qu'on pourrait essayer dans les recettes et tout. Et puis, bon, de ce que le consommateur veut en général, parce que même si on peut faire pas mal de choses avec le chocolat, le but c'est déjà d'en vendre. Donc bah, il faut essayer vraiment de trouver quelque chose qui rassemble tout le monde, les goûts que tout le monde apprécierait. Donc même parfois, même si on veut aller dans tous les sens, on se recale, on se dit, ben ouais, ça, il faut quand même que tout le monde l'apprécie. Alors on essaie d'ajuster et trouver vraiment le juste équilibre.
On n'est pas une grosse équipe, mais on est une équipe très qualitative. Donc, nous sommes deux, plus 5 personnes. Donc, 5 personnes temps plein. Donc, en gros, on est 7 à travailler dans l'entreprise. Et on n'a pas spécialement la volonté de grandir énormément à ce niveau-là.
Donc, moi, je m'appelle Zara et je suis étudiante ici chez Sigoji depuis maintenant 6 ans et demi. Donc, je connais bien le magasin, c'est mon premier job et finalement j'espère que ce sera mon dernier. Voilà, je commence à faire partie des meubles. Alors moi ici, en tant qu'étudiante, j'ai les clés du magasin, donc en général je tiens le magasin toute seule. Donc j'ouvre le magasin, je prépare la caisse, je prépare un petit peu tout pour l'ouverture et après mon job c'est d'abord d'accueillir les clients, de les écouter et alors de les servir au mieux. Et alors, je fais aussi la partie e-commerce. Donc, je m'occupe de tout ce qui est commande, préparation des colis et je fais l'envoi des colis.
Alors, on est très local. Hein. Donc, on a 3 boutiques. Donc, notre boutique, notre première boutique est Ciné. Ça, c'est vraiment notre secteur. Quoi. C'est chez nous, on adore cette ville. La boutique est tenue par Nadège, qui est vraiment... c'est comme si c'était son entreprise. C'est vraiment top. On a notre deuxième implantation qui est ici sur le lieu de production à Rochefort. Là, il va y avoir des changements d'ici quelques mois. On va faire pas mal de modifications pour en faire un lieu didactique. Tous nos fruits vont être cultivés là. Donc, en réalité, on va être autonome sur toute la partie fruits. Et on est autonome sur la partie cacao. Donc, on ne dépend plus de personne, finalement. Ça, c'était vraiment la volonté. C'était de se dire d'être des agros, finalement, chocolatiers. Donc avoir nos plantations pour le FEF, mais également tout le restant. Donc ça, c'est vraiment un super projet qui va vraiment voir le jour d'ici 6 mois, parce qu'on va faire des modifications dans le bâtiment pour ce faire. Et alors, on a un troisième site au Grand-Duché de Luxembourg. Ça, c'est une chouette histoire aussi. Donc on a rencontré une dame, Monique, il y a 4-5 ans. Elle est tombée amoureuse de ce qu'on faisait. Elle adore le chocolat, c'est une passionnée du chocolat. Et elle a lâché tout son boulot pour ouvrir une boutique Sigoji au Luxembourg. Et ça fonctionne super bien. Et là, on va certainement encore faire quelques petits aménagements pour rendre la boutique encore plus agréable et faire en sorte qu'elle puisse également engager une deuxième personne pour la seconder. Donc ça, c'est les 3 implantations Sigoji. Et à côté de ça, on a développé une petite gamme de produits un peu plus durables dans le temps, donc peu sensibles, peu sensibles finalement, mais gourmandes, pour tous les petites épiceries locales. Donc on travaille avec pas mal, on a une 50aine de clients. Ce ne sont pas des super grosses quantités, mais c'est chouette parce qu'on peut retrouver le produit Sigoji un peu partout. Alors, on ne peut pas retrouver toute la gamme, mais une certaine partie de la gamme. Ce qui fait connaître le nom également. Et voilà, mais ça reste très local. C'est vraiment province de Namur, province de Luxembourg, et on ne veut pas aller plus loin.
Alors, c'est totalement différent du chocolat industriel. C'est vraiment une saveur différente. Et on l'a fait découvrir... Donc... D'abord à travers le chocolat pur, donc en tablette, on s'est goûté les différentes fèves de cacao, les différentes provenances. Elles ont toutes des nuances l'une l'autre. Et alors l'association de praliné, chocolat, ganache, caramel, c'est vraiment C'est unique. Moi, je dirais que c'est. On n'en retrouve pas beaucoup. Moi, je dirais pas du tout exactement les mêmes, et encore moins dans tout ce qui est industriel. Voilà, ici, on travaille vraiment à partir de la fève. Donc, toute la production, le sucre, c'est, tout est fait ici, donc à Rochefort. Tandis que chez les grands chocolatiers, ils travaillent directement à partir de palets qu'ils font fondre et qu'ils refaçonnent à leur manière. Voilà.
Qu'est-ce que vous préparez là ?
Des petits coffrets 4 pavés. C'est une commande. Et là-dedans, vous avez le caramel beurre salé chocolat noir vanille, le caramel beurre salé au lait, la pralinée riz soufflé noisette et la pralinée cacahuète.
C'est pourquoi en fait ?
On fait un podcast sur les femmes wallonnes qui va sortir au mois de mars. Et on a interviewé ici pour le chocolat Sigogi, Euphrasie. Oui. Et donc c'était pour savoir si vous étiez une cliente régulière ou si c'était la première fois.
Oui, je suis une cliente régulière depuis pas mal d'années.
Régulier, oui, mais on n'achète jamais des quantités. On vient quand même toujours pour des occasions spécifiques. Hein. Oui. Et pour faire découvrir, justement, on aime bien offrir des produits issus des producteurs locaux de la région. Et comme on ne vit pas la même sous-région, je dirais, que nos proches, ben, on vient souvent amener pour faire découvrir à nos proches les produits de Phrasie.
Ah non, on vient, enfin régulièrement, on vient au moins une fois tous les deux mois. Souvent, quand on veut faire un cadeau de chocolat, on vient ici.
Alors, je suis une cliente régulière dans le sens où, en général, on vient ici chercher nos cadeaux de fin d'année pour nos clients. Et quand on doit faire des petits cadeaux, c'est vrai que c'est assez systématique. Et voilà. En fait, avant, j'habitais ici. C'était le magasin de ma maman, ma maison. Et donc, je sais pas, c'est assez symbolique. Et donc, voilà, je reviens facilement. Mais on est super satisfait de ces produits, de la qualité, de l'accueil. Voilà.
Ah, je viens de temps en temps. Ouais. Pas de manière tout le temps. Mais par exemple, au fait, je viens fréquemment. Alors moi, je ne suis pas une mangeuse de chocolat. Mais par contre, ma famille adore. Et donc, je fais plaisir autour de moi. Je viens pour la qualité des produits. Et je trouve que l'histoire a un sens pour moi aussi. Donc voilà. Et le fait que ce soit belge.
Moi, j'aime bien les pavés chocolat noir croustillant d'amande.
Mais moi, du coup, ce n'est pas les pralines, c'est les pavés cinnassiens.
Le signe pavé cinnassien. voilà, ouais. Peut-être que si je n'avais pas eu ce nom-là, ça aurait été différent, mais non, je trouve que voilà, pour représenter Cinès, c'est bien.
Ça fait plaisir de toujours expliquer aux clients ce qu'il va manger, d'expliquer l'histoire et voir la joie sur le visage du client, l'émerveillement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas d'où vient le chocolat. Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas la fève, qui ne connaissent même pas le fruit lui-même, la cabosse. Donc quand on leur explique un peu, ils sont waouh. Ils aiment connaître d'où ça vient, ça part de quelle origine. Et quand on leur raconte l'histoire, des fois en montrant les photos qui sont là, des champs et de tout le reste, ils sont contents, quoi. Ils sont émerveillés.
Oui, parce que tout au début, on avait un des clients qui expliquait un petit peu son parcours. Et j'ai vu plusieurs reportages télévisés, notamment quand elle a été sacrée chocolatière, première artisan, voilà, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ben, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a atterri ici la première fois, justement, c'était en découvrant l'histoire, parce qu'elle avait eu un prix, et c'est comme ça qu'on est venu découvrir, parce que nous, on est nouveau dans la région, et depuis, on revient très régulièrement. Ouais.
On est venu une fois lors d'une porte ouverte, et ils nous ont présenté un petit peu comment ils faisaient, comment tout ça venait, etc. Oui, franchement, c'est... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vient un petit peu ici. Voilà.
Et je trouve qu'une petite Belge comme ça qui sort de l'ordinaire et qui marque les esprits, c'est chouette.
On ne pensait pas y arriver quand on a commencé tout petit. J'étais déjà d'abord toute seule dans mon atelier derrière chez moi. Je pensais rester à Chaltan et moi, je faisais ma petite popote, ça allait, ça fonctionnait. Mais ça a tellement pris de l'ampleur et une telle envergure que quand on regarde vraiment les années, je dis toujours qu'on a mangé des pâtes les premières années sans rien. Aujourd'hui, on peut manger des pâtes avec de la viande. Ça veut dire qu'on a quand même fait des progrès.
Oui, elle est très inspirante parce qu'on peut dire qu'elle est vraiment partie de très peu. Elle avait à la base la petite chocolaterie dans son village et finalement elle s'est épanouie, elle a grandi et oui, elle est très inspirante, elle s'est vraiment bien construite et de la voir grandir comme ça et d'être un peu, enfin moi je la vois du coup depuis le début et oui, c'est très très, bon, j'ai pas le mot, mais vraiment quand je la regarde avec des yeux qui brillent, quoi.
Nous sommes fiers. de ce qu'elle fait, de ce que ça ressort, fier quand la personne goûte le chocolat et est contente. Et on emmène d'autres personnes à la limite parce qu'elle a pris un coffret, elle a fait goûter à des personnes et quand ces personnes arrivent, elle dit tiens, on a goûté un chocolat à travers des amis qui sont venus dîner. Et voilà, ça rend fière quoi. Contente de travailler ici. Oui, et de participer à l'évolution de Sigoji. Ça, franchement, c'est chouette.
Le Cameroun a fait de moi l'enfant que je suis toujours et la Belgique a fait de moi la femme que je suis devenue. Et le travail que je fais, le fait de vraiment de lier ma passion et d'en vivre, je pense que pour moi, sincèrement, je ne ferais pas autre chose. Je me trouve vraiment accomplie en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman. Sincèrement, j'aime bien ma vie.
Le dernier fait marquant, on va dire, c'était il y a 2 ans, lors de notre dernier voyage au Cameroun, on a vraiment senti la désertification des campagnes. Et là, elle a pris le taureau par les cornes, elle est allée à la TV au Cameroun, à la radio, elle est restée pendant 3 semaines là-bas pour essayer de sensibiliser les jeunes à revenir dans les plantations et limite aller chercher les jeunes en ville pour les ramener sur la terre et leur promettre et leur prouver qu'il y a moyen de gagner sa vie en travaillant différemment. Et donc ça, c'est son dernier grand défi, enfin son dernier, son grand défi des 10 décennies à venir. Elle lâche progressivement la partie chocolat ici parce que l'équipe est bien formée, on a vraiment transmis toutes nos connaissances à notre jeune équipe. Et on est fiers de cette équipe et donc on peut se permettre maintenant de retourner un peu plus au Cameroun. Elle n'a pas conscience qu'elle inspire d'autres personnes. Elle aimerait bien faire en sorte de dire aux jeunes ou aux moins jeunes que de vivre d'une passion c'est magnifique et que c'est possible. Elle est née avec rien. On a démarré l'entreprise avec 0 francs, 0 centime.
Et on a toujours cette appréhension, peut-être due à notre culture, à la façon dont on a peur de ce que les voisins vont dire. Moi, cette peur-là, je ne l'ai jamais ressentie. Donc, je me suis dit, tant pis, si je me casse le nez, c'est pas grave, je pourrais toujours recommencer. Après, peut-être que j'avais peut-être aussi des certitudes de pas ma façon de vivre aussi. Mais je pense qu'il faut prendre des risques. Dans la vie, si on ne prend pas de risques, ma foi, il n'y a pas de réussite. Et les réussites, c'est à partir des échecs, il ne faut pas avoir peur d'échecs. Et moi, je n'en ai jamais eu. Et il faut aussi se dire, bon sang, qu'est-ce qu'on a à perdre, quoi. Et moi, je pense que si toutes les personnes envisageaient cela, toutes les femmes en tout cas, qui veulent se lancer, penser de façon positive, je pense qu'elles y arriveraient. Même si elles ratent, ce n'est pas grave. Il y a toujours pas mal de choses à faire. Je pense que voilà, c'est tout ce que je peux conseiller, c'est de prendre des risques et d'être vraiment, de foncer et d'être fier de ce qu'on fait.
D'un point de vue chocolat, nous, on voudrait vraiment dire aux jeunes, s'il vous plaît, faites les choses à fond, quoi. Faites les choses à fond. Ayez conscience de ce qui se passe ailleurs. C'est pas tout d'acheter des produits industriels et de les transformer de manière artisanale. Ça, c'est vraiment pas la voie du futur. La voie du futur, c'est d'avoir une intégration verticale. C'est de connaître son producteur, de communiquer avec, de tomber sur un accord de prix, sur un accord de travail. Et une fois qu'on fait ça, tout le métier prend un sens. Et tout le monde est content de travailler. Et je pense que le client final le voit, le ressent. Et c'est ça qui fait que l'entreprise est durable. Il faut se différencier, il faut changer. Ça, c'est vraiment le message qu'elle veut porter, c'est changer notre manière de voir les choses. On a l'industrie qui est fortement présente, certainement, mais on peut pas se mentir d'un point de vue production, on peut pas se mentir. Si on veut être artisan, il faut l'être vraiment fondamentalement. On est trop dans ce système-là, on apprend ça à l'école, et ça, c'est quelque chose qui nous révolte. Et je comprends, ayant été en Afrique plusieurs fois maintenant, je comprends cette révolte et cette rage qu'elle a en elle par rapport à tout ce système qui est posé par le capitalisme européen. Et finalement, dès l'école, bah, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend à prendre son produit industriel et à transformer de manière artisanale. C'est un non-sens. Et elle est très éclairée sur le système et sur ce qui se passe, aussi bien au Cameroun qu'en Belgique. Elle sait qu'elle ne transformera pas... On rêverait tous de modifier la donne comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre des dizaines d'années. Mais si on y arrive, je dirais que si à notre pension, on se dit « Ah, on a quand même, ne fût-ce que 5%, apporté 5%, on se dit ben, « on aura bien bossé, on aura relevé la mission et nos enfants pourront continuer, je dirais, ce parcours. » quoi. Ouais.
On pourrait tout simplement commencer par dire merci à toute l'équipe Sigogi. On pourrait même dire la famille Sigogi. Merci à Richard Berthe, associé au travail et dans la vie d'Euphrasie, d'avoir été d'une sincérité à toute épreuve. Merci aussi à Euphrasie elle-même de nous avoir reçus dans ses ateliers avec cette passion et cette délicatesse qui la caractérise tant. Merci aux clients et clientes d'avoir joué le jeu devant notre micro et dans la file d'attente avant de déguster leurs achats. Et merci à Zara et Nadège, les deux vendeuses, pour leur accueil. Et on va pas se mentir, le fait qu'on ait pu pénétrer l'arrière-boutique. Il était une fois nos femmes wallonnes est une série de podcasts qui part à la découverte des femmes qui ont marqué et marquent l'histoire de la Wallonie. Qu'elles soient aviatrices, peintres ou actrices, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre matrimoine wallon. Cette série sonore est une création originale du studio Ultravague, soutenue par Startinvest. À l'interview, Héloïse Rouard, à l'écriture et au montage, Cassie Enaf, au mixage, Marius Adam, à la prise de son, Noémie Lalou et Anne-Sophie Skittekat, à l'interprétation, Gaëlle Swann, les visuels sont de Gilda Fellé, et la voix, c'est moi, Jessica Rigard.